Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a abordé plusieurs sujets politiques majeurs mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa lors d'une conférence de presse organisée en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse. À propos des élections, le chef de l'État considère la situation sécuritaire comme un facteur pouvant influencer le calendrier électoral de 2028. Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il ne sera pas possible d'organiser les élections en 2028, a affirmé le chef de l'État. Par ailleurs, Félix Tshisekedi s'est dit prêt à accepter un nouveau mandat si le peuple le demande. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai, a-t-il déclaré. Des déclarations qui ont suscité des réactions dans l'opposition notamment. Lors de sa conférence de presse tenue vendredi 8 mai à Kinshasa, Martin Fayulu, président de l'ECID, a accusé vivement le chef de l'État de préparer un troisième mandat. Et sur son compte X, il a écrit, je cite, « Nous allons barrer la route à tout projet de troisième mandat de Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour Joseph Kabila. Le Congo est plus grand que nos ambitions personnelles. » Fin de citation. Les masques sont tombés, telle est la réaction de l'opposant d'Eli Sesanga, accusant les chefs de l'État de vouloir désormais manœuvrer à découvert en vue d'un troisième mandat par plébiscite. Quelle analyse faire des déclarations du chef de l'État Félix Tshisekedi au sujet d'un possible troisième mandat et la fin de la guerre comme condition pour la tenue des prochaines élections? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans ce studio Émile Hassani, le député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bonsoir honorable Émile Hassani.
Bonsoir cher Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi, bonsoir à tous mes co-débatteurs de ce soir.
Et aussi Alidor Otchibanda, il est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale IPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Bonsoir professeur Alidor Otchibanda.
Bonsoir monsieur Guy, bonsoir aux auditeurs de la radio Kapi, bonsoir à l'honorable. Éventuellement celui qui pourrait nous rejoindre.
Justement, en ligne, c'est Taylor Lubanga, il est professeur, il est député national et chargé des missions du chef de l'État. Il est également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur Taylor Lubanga.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir et bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous pour échanger sur les questions essentielles dans cette société.
Merci, bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le chef de l'État affirme qu'il ne faut pas lier la révision ou le changement de la Constitution à un quelconque troisième mandat. Félix Tshisekedi l'a dit mercredi 6 mai à Kinshasa devant la presse nationale et internationale. La première ministre accompagnée de plusieurs membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités de l'Union sacrée et les communicateurs de la majorité. Il estime que pour lui, le changement ou la révision de la Constitution ne peut se faire qu'après avoir consulté les peuples congolais par référendum et affirme qu'il n'a pas sollicité un troisième mandat. On écoute Félix Tshisekedi au micro d'Alain Irunga.
Je n'ai pas sollicité de troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes deux mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum.
Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il ne sera pas possible d'organiser les élections en 2028. Cette déclaration a été faite mercredi 6 mai par le président Félix Tshisekedi lors de cette conférence de presse tenue à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a illustré son propos par l'exemple de l'Ukraine où les élections auraient dû se tenir depuis 2 ans, mais n'ont pas pu être organisées en raison du conflit. On écoute une fois de plus les explications de Félix Tshisekedi au micro d'Alain Irunga.
Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, je ne, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que je vais refuser de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que le président Zelensky ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser des élections en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas?
Professeur Taylor Lubanga, vous êtes professeur et député national et chargé des missions du chef de l'État. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. On va commencer par cette question liée à impossible, n'est-ce pas, troisième mandat. Le chef de l'État dit, je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous l'ai dit, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Comment vous comprenez, professeur Taylor Lubanga, comment vous comprenez cette prise de position du chef de l'État sur un éventuel troisième mandat?
Merci beaucoup, Guy Maté. Et je voudrais ici saluer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et vouloir donner un point de vue d'éclairage sur la déclaration du président de la République à l'occasion de ce point de presse. En effet, il faut noter que le président est un serviteur du peuple. Et de ce point de vue, il a le devoir de présenter le bilan au peuple à mi-parcours, mais encore lorsque les questions occupent les salons politiques, le président doit pouvoir donner sa position sur les questions qui, aujourd'hui, inondent les débats politiques. Je ne comprends pas pourquoi les opposants s'agitent sur une communication tout aussi claire et responsable lorsque le président dit « Je ne peux rien accepter des débats que j'entends. Pour moi, tout ce qui peut être fait et donc les réformes envisagées destinées à améliorer la qualité de la gouvernabilité du pays ne peut être performe ou se forme ne peut être possible avec l'accord du peuple par voie référendaire. Où il est mal? Le président de la République reconnaît les limites de ses mandats et vous dit être prêt à quitter le pouvoir, les laissant sur le bon rail. Mais respectueux de la volonté, soucieux de pouvoir bien entendu, écoutez le peuple qui dit vous, si la population m'est demandé de revenir, je ne m'opposerai pas.
Voilà.
Ici n'est pas ma préoccupation.
Voilà, vous parlez d'une communication claire. Hein. Que répondez-vous à ceux qui disent que le chef de l'État a déjà pris la décision de briguer un troisième mandat et que le fait de lier cela à une possible demande du peuple, c'est pour lui une façon, n'est-ce pas, de préparer l'opinion sur cette décision qui est déjà prise par lui?
Mais si le président avait pris une position, nous serions le premier à le savoir. Les journalistes invités à ce point de presse seraient surpris de l'entendre. Alors, je ne sais pas comment on peut déjà aller dans l'hypothalamus du président de la République pour découvrir, mon Dieu, ce qu'il pense qu'il n'a pas dévoilé en dehors des capacités oraculaires. Guimaté, vous savez, dans la microphysique du pouvoir, de Michel Foucault. Le pouvoir s'exerce de manière réseautée, institutionnalisée et tactique. C'est-à-dire, du secteur de groupement, secteur province et capitale, il existe des canaux de communication et du pouvoir. Je ne connais pas dans quelle entité, dans quelle force, dans le cadre de relations institutionnelles qui est le pays, une démarche qui a été entamée pour le président annonçant un troisième mandat. Ça n'existe pas. Mais seulement, on sait tous aussi, intellectuellement, j'entends, rendu bien compte, qu'il est bien dit, qu'il est bien conscient de la fin de ses deux mandats. Mais s'il arrivait que le peuple nous demande, mais qui sommes-nous? Alors, j'ai une question simple, mesdames, à l'endroit des opposants. Si nous travaillons pour le peuple, si la Constitution est l'œuvre du souverain primaire, et que celui-ci, pour des raisons qu'il considère cohérentes et incontournables, décide de confier un rôle à un gouvernant dont le bilan, dont les réalisations dépassent de moins de 10 ans ou de 10 ans, dépassent le bilan cumulé des plusieurs mandats passés, et trouve en lui, pas un messie, mais quelqu'un d'engagé et capable de conduire encore plus haut, plus loin. Mon Dieu, mais qui sommes-nous pour pouvoir dire au peuple qu'il est décidéré, le mois venu, de ne pas procéder? Donc je pense que ce sont des débats, des débats simples, des débats autour de la question de mettre, mais qui ne sont pas, ou qui ne tiennent pas en compte, qui ne prennent pas en compte le soubassement populaire, la volonté du peuple pour lequel, entre guillemets, tous nous travaillons.
Voilà.
Je pense qu'il ne faudrait pas ici prêter les intentions au président de la République. Faut-il encore attendre que le peuple lui demande, dans les conditions démocratiques, où les opposants comme nous, le moment venu, chacun expliquerait et défendait.
Oui, voilà. Le peuple lui demanderait par quelle voie? Par une pétition? Par quelle voie, à votre avis?
Et donc, la Constitution prévoit le mécanisme de consultation populaire et même d'expression du peuple. Vous avez les pétitions, vous avez les députés nationaux, vous avez également le gouvernement. Donc, lorsque l'un ou l'autre des pistes d'expression est activé, les soubassements, sinon la destination, c'est maintenant le référendum, c'est-à-dire aller vers le peuple au sens direct, pour recueillir ses avis, l'acceptation ou le rejet des réformes, si celles-ci sont mises en mouvement.
Merci.
Et donc, ce voit son constat qui sont prévus dans la Constitution.
Merci, professeur Taylor Lubanga. On va vous donner la parole. Honorable Émile Hassani, député national élu de Kindu, sous la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. On reste toujours, n'est-ce pas, sur cet aspect d'un possible troisième mandat. Comment vous comprenez cette position du chef de l'État selon laquelle il n'a pas sollicité un troisième mandat, mais que si cela est souhaité par le peuple, il accepterait?
Très bien. Merci beaucoup, cher Guy Maté. Je crois que les velléités d'un possible troisième mandat n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous assistons avec beaucoup de regrets parce que si il y a des partis qui ont milité dans ces pays pour l'instauration de la démocratie, l'honnêteté scientifique oblige, je crois que l'UDPS est l'une de ces partis politiques-là qui a milité pendant longtemps. Et durant son parcours, durant sa bataille pour l'instauration de la démocratie, l'UDPS nous a nourri de beaucoup, beaucoup de promesses. Comme quoi, les jours où elle va accéder au pouvoir, ça sera la véritable démocratie, et ainsi de suite. Mais curieusement, comme les pouvoirs corrompent, lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, déjà à l'entame de son deuxième mandat, les discours tendant à la révision de la Constitution pour se donner un troisième mandat ont commencé. Souvenez-vous, en 2023, déjà, le chef de l'État a dit que « Qui êtes-vous pour m'interdire, moi garant de la nation, de changer ou réviser la Constitution ?» Et avec ce que nous avions subi, l'agression rwandaise, la question a été presque neutralisée, lettre morte, pendant qu'il y a une sorte d'accalmie à laquelle nous sommes en train d'assister, les débats ou les paradigmes refaient surface. Et cette fois-ci, ils ne viennent pas mébréduits. le chef a repris les slogans et il s'est prononcé cette fois-ci de façon ouverte pour dire qu'il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais si jamais le peuple lui demandait de briguer un troisième mandat, il ne tardera pas à sauter sur l'occasion.
Quand vous dites qu'il ne vient pas même réduit, c'est-à-dire qu'il aurait déjà quelque chose en main?
Non, j'ai pas du pouvoir en place, hein. Ils ne viennent pas même réduits. Déjà, vous allez voir, au même moment, les chefs de l'État s'est prononcé pour un possible troisième mandat qui viendrait, dont l'initiative viendrait du peuple. On ne sait pas, vous avez posé cette pertinente question à l'honorable Taylor. Il n'a pas été en mesure de vous répondre avec clarté. Par quel mécanisme ce peuple-là proposerait au chef de l'État de briguer un troisième mandat? Il n'a pas répondu avec beaucoup de clarté. Alors, quand je dis « ne sont pas venus même réduits », je crois que vous avez suivi à l'Assemblée nationale. Nous sommes entrés d'ailleurs, on a commencé aujourd'hui dans la commission PAJ, où je suis membre. Il y a une proposition de loi dont l'auteur, c'est l'honorable Gaspard Ngondankoy. Et cette proposition de loi, proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. En réalité, M. Guy Maté, lorsque vous parcourez cette proposition de loi, vous comprendrez qu'il est question du changement de la Constitution. Il suffit de lire, parce que le peuple doit savoir ce que nous sommes en train de faire au Parlement. C'est pour ça qu'il nous a mandaté. Il suffit de lire les titres 5 de cette loi. Ça commence à partir des articles 87, 88, c'est jusqu'à 93. Déjà, au niveau de l'article 88, l'auteur de la proposition prévoit la possibilité non de réviser la Constitution, mais plutôt de changer la Constitution. Voyez-vous ? De changer la Constitution. Parce que ils ont compris avec les mécanismes de révision de la Constitution, il n'y aura pas possibilité au chef pour briguer un troisième mandat.
Parce qu'on ne sera pas touché
aux matières intangibles qui sont consacrées au niveau de l'article 220. Il n'y aura pas possibilité. Parce qu'ils réfléchissent aussi. Ils ont des professeurs, ils ont des experts, à l'instar de l'honorable Taylor Lubanga, ils ont compris qu'avec la révision constitutionnelle, il n'y aura pas moyen. Et là, comme j'ai dit, ils ne viennent pas même réduits, ils viennent avec une proposition de loi qui est déjà alignée. On a commencé l'examen aujourd'hui dans la commission PAJ.
Donc on prépare déjà le terrain. Alors que la population n'a pas encore demandé. C'est-à-dire que c'est...
Mais il n'y a
on
pas,
se prépare
il n'y a
à une
pas,
éventuelle demande de la population.
Il n'y a pas une possibilité.
La population n'a pas encore parlé, mais on commence déjà à préparer.
Et effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit, votre question pertinente, l'honorable Taylor Lubanga n'a pas été en mesure de répondre. Parce que la Constitution n'a pas prévu un mécanisme où le peuple pourrait se prononcer sur un troisième mandat à qui que ce soit, c'est-à-dire au chef de l'État qui exerce la fonction de chef de l'État actuellement. Vous lisez la Constitution à partir de l'article 1 jusqu'au dernier article 229. Nulle part on ne donne à la population ou au peuple la possibilité de proposer au chef de l'État un troisième mandat. Et que donc...
Et si à travers cette pétition qu'a évoqué le professeur Taylor Lubanga, la population s'exprimait, n'est-ce pas, en faveur de ce troisième mandat? Comment vous réagirez-vous à l'opposition?
C'est impossible. Du point de vue des droits, la Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Et or, lorsque nous allons dans les mécanismes de la révision, il n'y a pas moyen que le chef de l'État brigue un troisième mandat. Par contre, lorsque nous allons dans l'hypothèse du changement, déjà la Constitution n'a pas prévu son changement, et comme ils ont compris qu'ils sont bloqués dans les mécanismes de révision, voilà pourquoi ils viennent avec une hypothèse, une théorie qui ne trouve pas de soubassement dans la Constitution. Une théorie selon laquelle on changerait la Constitution. Alors que ça, c'est très technique et c'est important. Je vais faire un effort pour que je sois compris par la population parce que ça engage l'avenir de nous tous et même de notre progéniture. Monsieur Guy Maté, en ce qui concerne les référendums, la Constitution a 3 articles qui traitent sur les référendums. Le premier article, c'est l'article 2 de la Constitution. Cet article prévoit la consultation du peuple par les référendums en ce qui concerne les transferts de la capitale de la République démocratique du Congo d'une ville à une autre. Vous êtes à l'article 214 de la Constitution. Cet article prévoit également la consultation du peuple par les référendums en ce qui concerne la jonction d'une partie du territoire, ainsi de suite, du territoire national. Dernier article. Il s'agit des articles, en fait, des articles à partir de 218 à 220. Là, c'est en ce qui concerne la révision de la Constitution. Mais curieusement et contre toute attente, avec leur projet, leur proposition de loi, on vient apporter une nouvelle matière qui n'est pas prévue dans la Constitution, mais l'auteur de cette proposition de loi prévoit les changements de la Constitution. C'est-à-dire quoi? Leur mécanisme, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire, ils veulent proposer, ils veulent que le Parlement puisse voter une loi qui permet à une assemblée constituante, c'est ça qui est prévu dans cette loi, dans cette proposition de loi.
Une loi qui serait au-dessus de la Constitution.
C'est ça qui est étonnant.
C'est logique.
Et même révoltant.
Oui, mais
même révoltant.
Honorable, c'est encore une proposition de loi. Vous appelez ça proposition de loi qui est sous examen, et donc il y a possibilité que vous puissiez rejeter cette proposition de loi.
Mais c'est Guy Maté.
La décision n'est pas encore prise, n'est-ce pas?
À l'Assemblée nationale, par exemple, sur 500 députés nationaux, les opposants, nous sommes à 24, moins de 30. Pensez-vous que nous sommes en mesure de faire blocage à une telle proposition de loi si jamais l'option est levée?
Vous pensez qu'il n'y a pas de députés membres de la majorité qui penseraient comme vous, qui seraient en train de réfléchir comme vous?
Est-ce qu'ils seront indépendants d'esprit? C'est ça une autre question. Voir comment les pouvoirs fonctionnent, je ne vois pas un député de l'Union Sacrée qui s'élèverait pour dire que non, écoutez, non, cette proposition de loi ne peut pas passer sans qu'ils ne soient inquiétés.
Merci. Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Et quelle est votre lecture de la déclaration chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sujet d'un possible troisième mandat?
Bon, il a dit, si le peuple le veut, lui est disposé à répondre à la faveur du peuple. Ça voudrait autrement dire quoi? Je voudrais dire que le président voudrait bien, hein, je ne dis pas, je ne suis pas trop dans ses intentions, mais à la lecture de ses propos, il voudrait bien se soumettre à la volonté du peuple, d'après ce qu'il dit. Mais cette volonté, telle qu'organisée, consacrée dans la Constitution, présente assez des limites, comme venait de le dire l'avocat en face. J'ai d'ailleurs un papier que je suis en train, un article sur ça, où je parle de l'article 5, entre la révision et les changements constitutionnels. Quelle est la véritable interprétation de cet article-là? Parce qu'on dit la souveraineté populaire appartient au national, appartient au peuple.
Article 5.
Article 5. Cette souveraineté-là, le peuple l'exerce soit par ses représentants, bon, je ne reprends pas mot à mot les dispositions telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution. Mmh. Le peuple l'exerce soit par ses représentants élus, hein, soit par élection, soit par référendum. Le co-débatteur en face venait de donner le cadre dans lequel les référendums pourraient avoir lieu ou pourra avoir lieu. Alors, cela voudrait nous dire que ce qui est consacré, cette souveraineté est consacrée par la Constitution et ne peut pas agir en dehors de ce que la Constitution prévoit. Les constitutionnalistes vous parleront du peuple du dedans et du peuple du dehors.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que le peuple du dedans, c'est ce peuple-là qui est soumis à la volonté constitutionnelle et qui agit en fonction de cette Constitution-là. Mm-hmm. S'il faut amener ce peuple-là...
À travers les pétitions, notamment.
Oui, s'il faut amener... Mais la pétition ne peut pas changer
la constitution. Même si vous avez 1 million de signatures, elles ne vont pas changer la constitution parce que la constitution a prévu dans quel cadre cette pétition peut agir ou peut être exercée. C'est-à-dire dans le mécanisme de changement de la... de révision de la constitution. Dès lors qu'on entre dans le mécanisme de changement, on tombe en dehors de la constitution. Je me fais comprendre. Là, le référendum dont il est question ne peut pas ni être législatif, ni être constitutionnel. Il faut lever une option politique claire. Je me fais comprendre. Il est de bon aloi. Ils ont la majorité.
Cette option, voudrait quoi?
Une option qui dit...
On met de côté la constitution.
On met de côté la constitution et on adopte une nouvelle constitution. C'est une option politique. Égare à ceux qui disent que... Bon, je ne suis pas dans ce qu'on parle de ceux qui disent coup d'État constitutionnel. Non, c'est une option politique.
Et c'est comme vous le dites...
Je suis de ceux qui pensent que la constitution c'est défini comme... un compromis politique entre les acteurs majeurs du champ politique. Le reste, là, ce sont des discours. Je vais revenir un peu sur la problématique du changement ou des révisions de constitution.
Et si,
faisons un peu la politique par le bas. Prenons un peu les déclarations différentes depuis l'accession de Tshisekedi au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Quand nous rentrons dans les déclarations de l'ancienne majorité au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent clairement que vous n'avez pas gagné les élections. C'est nous qui avons fait que vous soyez là. Admettons. Est-ce que cette constitution a prévu le mécanisme de cooptation? Cette constitution dont tu nous parles, dont l'ancienne majorité veut faire d'une Bible incontournable, a prévu des signatures d'un accord pour accéder au pouvoir? Alors, s'ils sont conscients qu'eux-mêmes ont violé la Constitution, qu'ils acceptent que ceux qui sont au pouvoir actuel trouvent que le mécanisme qu'ils ont mis en place pour les placer au pouvoir, si effectivement il y a eu ça, n'était pas conforme à la Constitution, et par conséquent, il est de bon aloi qu'ils réfléchissent sur cette Constitution, peut-être pour empêcher que ce qui s'est passé par le passé ne revienne plus. Si nous admettons, nous sommes dans les hypothèses, parce que personne n'était là lorsqu'on discutait de tout ça, mais nous partons des discours des acteurs majeurs.
Alors, si, comme vous le dites ici, donc l'honorable Émile Hassani et vous-même, par la pétition, le peuple ne peut pas arriver à changer la constitution. Et donc, il sera difficile, s'il y a une pétition, que l'on puisse aboutir, n'est-ce pas, à un troisième mandat du chef d'État, Félix Tshisekedi.
Je ne le pense pas. Je suis politologue, je voudrais qu'on lève les options politiquement et qu'on avance.
Et si c'est le cas, pourquoi le chef d'État, sachant cela, il a quand même évoqué cette éventualité-là, l'éventualité que le peuple puisse s'exprimer à travers, c'est pas un moyen comme une pétition et tout ça.
Vous savez, il y a plusieurs définitions de parti politique. Il y en a qui disent le parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible. Toute ambition humaine, c'est d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir le plus longtemps possible. C'est pourquoi,
à n'importe quel prix.
Non, c'est pourquoi on dit, pour limiter ces ambitions-là, il faut un cadre qui doit limiter les compétences. On parle aujourd'hui du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme, c'est un mécanisme de limitation de pouvoir, de réglementation des ambitions. Vous agissez dans un cadre limité et vous respectez ce cadre-là. J'ai dit bien, que ce soit le régime passé, que ce soit ce régime actuel, il y a eu beaucoup de contradictions dans l'application de cette constitution. Je ne serais pas mal placé d'accepter qu'il y ait quand même une réflexion. Aujourd'hui, nous sommes en pleine décentralisation. Ce matin, j'étais ici, on discutait sur la décentralisation. Nous sommes à la cinquième législature, si je ne m'abuse, peut-être que la cinquième législature ou la quatrième, voilà, la quatrième législature où les élections locales peinent à atteindre le fond, c'est-à-dire arriver jusqu'au choix des bourgmestres. Nous avons les 40% qui, jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir central peine
à l'appliquer.
Nous avons le gouverneur qui n'arrive pas à payer régulièrement ils fonctionnent, les provinces fonctionnent comme des entités en faillite. Lorsqu'on ne sait pas prendre le personnel en charge, comment l'argent va circuler dans une entité? Donc tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels on peut réfléchir. Mais soumettre le troisième mandat dans le cadre de cette constitution à la pétition ou référendum, c'est un discours politique. Je crois que ça n'a pas de place. Ce qu'il faudrait, moi, si j'étais conseiller au niveau de la majorité au pouvoir actuel, je demanderais qu'on lève l'option. J'avais apprécié l'intervention du professeur Bouchab, bien que beaucoup ne l'aient pas compris. Il a dit ceci. Il a dit, ce n'est pas, cette constitution n'a pas scié l'arbre sur lequel elle est assise. La constitution n'a pas prévu de mécanisme de son changement. Il faut lever l'option politique, c'est-à-dire, nous sommes une majorité, nous devons faire adopter une nouvelle constitution. Alors, si cette nouvelle constitution va élaguer la limitation du mandat, le peuple pourra se soumettre parce que le peuple ne répond qu'à une question. Et cette question, ce n'est pas le peuple qui demande, c'est le pouvoir public. C'est pourquoi j'ai dit la constitution n'est qu'un compromis entre les acteurs majeurs. C'est le pouvoir public.
Merci.
Qui va poser sa question au peuple et le peuple va donner son avis.
Merci.
Voilà le point de vue que je peux émettre à ce niveau.
Merci, professeur Taylor Lubanga. Professeur, vous êtes député national et chargé des missions du chef de l'État. Vous êtes également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. S'il faut revenir, n'est-ce pas, aux prochaines élections, pourquoi conditionner la tenue des élections 2028 par la fin de la guerre dans la partie est du pays, professeur Taylor Lubanga?
Je voudrais très rapidement déjà... avant de passer à cette question, dire toute mon admiration aux interventions de nos débatteurs à ce débat.
Professeur, apparemment vous avez activé le mode main libre. Essayez de le désactiver comme ça, la ligne sera claire.
Alors, je disais donc que je vais devoir remercier les co-débatteurs sur la prétence de leurs interventions à la première question. Et que je voudrais, avant de passer à la deuxième question, pouvoir apporter quelques éclaircies sur ce que j'ai entendu. Et très rapidement, dans
rapidement, oui, parce qu'on n'a pas assez de temps.
Oui. Et donc, l'on dit, la souveraineté populaire est limitée. Il s'agit ici des pétitions qui ne s'exercent que dans un cadre limitativement imaginaire qu'on n'a pas précisé. Et l'honorable et cher frère me demande, moi, par quel mécanisme le peuple pourrait s'exprimer pour un troisième mandat. Et donc, les deux questions, les deux préoccupations des co-débatteurs se regroupent, se rencontrent et appellent un éclairage pragmatique et même épistémologique. En effet, lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, tout au début, ce qu'on appelle l'endroit, l'alinéa premier, il est dit, la souveraineté nationale appartient au peuple. Point. Et l'article continue, tout pouvoir émane du peuple. On dit bien tout. Dans le cours des logiques formelles, Kalinowski et Perlman dégagent des propositions du raisonnement, tout simplement, dans ce qu'on appelle logique formelle. Vous avez les propositions qui sont universelles. Lorsque le législateur dit tout pouvoir, il n'entend pas limiter les recours, sinon l'exercice, à quelques aspects.
Ça, c'est
une constante indiscutable.
Ça, c'est l'esprit de cette.
Donc, le peuple peut, lorsqu'il le désire, donner le sens de ce qu'il entend voir. Ou entend voir se réaliser, selon le cas.
Et même si son action, non. Même si l'action du peuple viole la Constitution?
Non, mais justement, c'est quoi la Constitution? Le professeur Kisaka Kiangoi définit la Constitution, mais il n'était pas constitutionnaliste, mais un juge, c'est au sommet de sa carrière. C'est en fait l'éminent professeur. Il dit la constitution ne peut être résumée qu'en une simple ligne. L'expression de la volonté populaire. Pourquoi? Parce que les textes des experts finissent chez les peuples au travers le référendum dans des régimes démocratiques. Voilà pourquoi c'est les peuples qui adoptent. Parce que le peuple fait, il peut défaire.
Ok. Parce que le peuple fait, il peut défaire. Alors, pourquoi vous conditionnez la tenue des élections 2028 par la fin de la guerre dans la partie est du pays? Pas vous, mais les chefs d'État.
Oui, d'accord. Merci bien. J'invite l'honorable de ne pas avoir peur sur la référendaire. C'est une loi qui est prévue, hein. Cette loi-là organisera seulement les modalités de l'exercice du référendum. La loi ne porte pas révision constitutionnelle. Ils sont dans la commission, on les invite à y donner un sens, un contenu qui soit cohérent.
Voilà.
Très bien. Alors, pourquoi les présidents, ou comment les présidents lient-ils, ou connectent-ils les élections à la fin de la guerre, ou conditionne l'élection, les élections au pays à la fin de la guerre. Alors, maintenant, en toute responsabilité républicaine, vous pensez-vous qu'il est possible dans un pays comme le nôtre qu'on organise une balkanisation des faits en organisant les élections sur une partie du pays accessible où les enrôlements peuvent se dérouler, et en consolidant l'autonomie administrative des rebelles. Autrement dit, est-ce que vous pensez, dans toute responsabilité, la constitution sur laquelle le président a prêté serment et de laquelle découle le pouvoir actuel, accepterait de voir celui qui a prêté serment la laisser être vue, c'est-à-dire n'est pas assuré l'intégrité territoriale. C'est ça les problèmes de responsabilité politique.
Merci.
Alors, maintenant, la question de savoir, est-ce que en demandant que les élections ne pourraient, en prenant par exemple l'Iran et d'autres pays, à la fin des élections, les présidents voudraient ici voir tous les Congolais se mettre dans la dynamique de faire partir les agresseurs du pays. Et de voir, il a dit d'ailleurs, et de voir tous les Congolais accepter de venir autour d'une table dans le cadre d'un dialogue républicain pour réfléchir sur la façon de répartir sur des bases plutôt solides que réalistes, de manière à améliorer le mieux-être des Congolais.
Le
responsable ne peut pas aller, ne pas faire mieux que ça.
Oui, nous rappelons ici que c'est de l'histoire.
Compris à ce point-là.
C'est de l'histoire récente. Hein. On rappelle qu'en 2018, comme en 2023, il y a des localités de ces pays qui n'ont pas pu participer aux élections, n'est-ce pas? Et bon, les pays continuent à exister. Évidemment, quand vous voyez le Nord Kivu et le Sud Kivu, bon, c'est des entités, n'est-ce pas, plus vastes. Mais on se rappelle qu'il y a des localités qui n'avaient pas participé aux élections en 2018 comme en 2023. Donc pourquoi ne pas penser à cette jurisprudence?
Mais justement, vous dites bien que les pans passéistes, les localités au moment des élections de 2018 ne représentaient pas une densité comparable à celle d'aujourd'hui. Et bien plus, vous dites vous-même que pourquoi n'est pas, c'est une jurisprudence. Est-ce qu'y a-t-il moins Congolais que d'autres? Pourquoi nos frères-là ne doivent-ils pas voter? Une jurisprudence mauvaise, celle de laisser pour compte, c'est un Congolais abandonné sous la domination étrangère et continuer à faire semblant comme si de rien n'était. Je pense que le président, c'est l'expression d'un nationaliste, d'un patriotisme engagé qui, lui, s'emploie à défendre et amplement tous les Congolais où qu'ils se trouvent dans les limites, n'est-ce pas, de l'étendue de la République démocratique du Congo.
Merci.
Et ceci devrait être loué par les opposants et tous les Congolais de bonne volonté. Mais malheureusement, comme vous savez, les lois comme les principes sont faits pour les gens de bonne volonté, mais quand on est parfois confronté à des divisions d'intérêts sur les questions comme celle-là, on comprend bien que chacun réclame ce qui lui revient.
Merci.
Mais si c'est dans l'intérêt du peuple, ce discours me semble cohérent, transparent et à encourager.
Merci, Emile Hassani, député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Le chef de l'État n'a-t-il pas raison de penser qu'on ne doit pas organiser les élections sans le Nord et le Sud Kivu?
Je crois qu'il n'a pas, objectivement, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on peut appeler en droit l'intention, la préméditation. Monsieur Guy Maté, les élections sont prévues au mois de décembre 2028. Nous avons encore près de 3 ans ou 2 ans et demi qui nous séparent de la tenue des élections générales. C'est au mois de décembre 2028. Mais là, nous sommes en 2026. On préconise déjà ce qui devrait, l'impossibilité qui devrait s'ériger en obstacle pour la tenue des élections de 2028. Il y a de quoi se poser des questions. On nous a chanté ici les accords de Washington qui devraient ramener la paix. On a signé les accords de Washington avec tambour battant. D'une part, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. D'autre part, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et on nous a dit « fini la guerre ». Fini la guerre. On nous a amené ici des migrants. On dit c'est parfois ce sont des investisseurs, ainsi de suite. Et que donc, lorsqu'on est d'accord, on est sûr, on sait qu'on a signé des accords qui mettent fin à la guerre. Alors, comment on peut encore envisager l'impossibilité de tenir les élections en 2028? C'est que c'est une farce. Mais okay. C'est Guy Maté.
Ah, okay. Donc,
ça relève de la logique, la logique la plus simple.
C'est d'accord.
Vous m'avez invité ici, j'étais face à un député national, l'honorable Bangakia Joseph. On nous a vanté ici les accords de Washington. Et on nous a dit les accords de Washington mettent fin à la guerre. Mais en même temps, on vous dit non, attention, en 2028, il n'y aura pas d'élection parce qu'il y, y a la guerre.
Ah, donc, vous
finalement,
parlez de
qui trompe qui?
Vous parlez de la préméditation.
Qui trompe qui? Alors, ce que nous allons dire, moi je m'adresse au chef de l'État, parce que c'est lui le garant de la nation. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, M. Guy Maté, il a prêté le serment suivant, et c'est important. Moi, le président Félix Tshisekedi, élu président, la Constitution lui donne certaines missions, certaines assignations. La première, il dit, il doit observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Et là, il prête serment devant le peuple et devant la nation, devant Dieu et la nation. C'est pas anodin. C'est pas une simple formalité, M. Guy Maté. C'est une parole lourde de conséquences. C'est un engagement lourd de conséquences. Et le chef de l'État, c'est lui qui avait prêté serment. C'est vrai qu'il a ceux qui s'appellent, entre guillemets, espèrent, qui viennent lui dire, lui développer des théories, midi, matin. La Constitution, ce n'est pas une loi organique, ce n'est pas une loi ordinaire, M. Guy Maté. La Constitution, c'est un texte de compromis. C'est vrai que la Constitution a certaines failles. L'honnêteté scientifique oblige. Moi-même, j'ai certaines dispositions dans la Constitution qui ne m'arrange pas du tout, et que réfléchir sur l'amélioration de notre texte constitutionnel n'est pas un tabou, mais à quelle ou sous quelle modalité? Ça doit être à travers d'un dialogue, parce que dans un dialogue inclusif, les Congolais vont se retrouver. Les adversaires d'aujourd'hui, nos frères qui sont à l'Est, l'opposition armée, l'opposition non armée que nous sommes, les pouvoirs en place, on se met autour d'une table et on lève des options. La constitution, moi je la compare, je la considère comme un titre parcellaire. Vous êtes les enfants d'une famille, vous êtes les héritiers, vous avez votre bien commun, on appelle la copropriété. Lorsque vous voulez vendre, ça ne doit que relever d'un compromis. On ne peut pas, parce que on gère aujourd'hui, on a les représentants du peuple, nous avions accédé dans les conditions que nous connaissons, et on s'est dit, ces poignets-là du peuple, on dit, nous allons décider sur autant de millions de peuples congolais, sur leur avenir et devenir. Mais non, M. Guy Maté, ça doit relever d'un compromis, et ce compromis doit se passer dans le cadre d'un dialogue tel que prôné par nos pères spirituels, dans l'espèce la CENCO et l'SSC.
Merci Alidor Chibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle analyse vous faites de la déclaration chez l'État, conditionnant, n'est-ce pas, la tenue des élections de 2028 par la fin de la guerre dans l'Est du pays?
Bon, avant d'y arriver, souffrez que je rappelle à l'honorable professeur
Taylor
Lubanga, que je connais très bien, qui nous amène pas à une interprétation exégétique pour nous faire croire que ce que nous disons semble être à côté. Je doute fort quand il le sait pertinemment bien, c'est un garçon très brillant, un juriste très compétent. Il sait qu'en matière de droit public, il y a Anne-Marie Coedette, qui doit connaître très bien, qui ne parle plus de méthode juridique sous l'angle exégétique seulement. On parle de plusieurs approches qui permettent d'interpréter une disposition constitutionnelle. On parle de téléologique, systémique, et j'en passe. Lorsqu'on combine la compréhension de l'article 5, ne se conçoit pas seulement au niveau de l'article 5. C'est le système juridique, en cette matière ici, appelle les différentes dispositions de la Constitution qui limitent cette souveraineté qui n'appartient qu'au peuple.
Je propose, professeur, qu'on puisse revenir un autre jour.
Je termine. Le débat. Parce que la Constitution n'a prévu aucun mécanisme pour son changement.
Voilà.
Même le peuple, c'est un peuple du dedans, il n'est pas le peuple du dehors. Il est en politique, il est au niveau du pouvoir, qu'on lève clairement l'option politique.
Voilà.
C'est-à-dire, nous devons changer la Constitution pour telle raison. Et on donne les éléments du langage à ceux qui doivent soutenir l'option, de défendre cette option jusqu'à la fin. Mais je reviens sur... Je peux encore ajouter un dernier mot sur ça. Je ne parlerai pas beaucoup sur ça. Un dernier mot, c'est que déjà ceux qui ont pris les armes ont une autre option différente de celle qui est consacrée dans la Constitution. C'est que déjà nous sommes de plein pied dans l'obligation de revenir sur cette Constitution et de voir qu'est-ce qui peut encore davantage nous mettre ensemble, parce que ça porte à beaucoup de contradictions.
Voilà, en des phrases, la fin de la guerre.
Bon, moi je ne trouve pas, jusqu'à preuve du contraire, l'inconvénient, dès lors que la guerre, nous savons lorsqu'elle commence, nous ne savons pas quand est-ce qu'elle se termine. Il était clair, lui-même, le président de la République, lorsqu'il a dit que lors des élections, il a promis d'aller jusqu'au Rwanda, à partir de Goma, on pouvait mettre fin à cette bêtise au Rwanda. Mais il s'est rendu compte que dans l'armée qu'il avait tant vantée à sa prise du pouvoir, c'était une coquille presque vide, comme une composition qui ne pouvait pas amener la paix. C'est pourquoi, en regardant la manière dont il travaille et les temps qui lui restent, il est le consommateur de tout le rapport de service. Peut-être que les éléments à sa disposition l'amènent à dire qu'il est difficile de croire que d'ici 2 ans, on pourrait arriver à la fin de la guerre.
Donc les accords de Washington n'auraient servi à rien, comme l'a dit le député.
Nous les constatons. Heureusement, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas servi à rien. Je ne suis pas opposant comme lui. Je suis au milieu du village, mais je constate au moins que grâce à ces accords-là, Ouvira, qui avait été déjà entre les mains des rebelles, ne l'est plus. Je constate aussi que grâce à ces accords-là, Walikale n'est pas sous le contrôle. Je constate aussi que grâce à ces accords-là, certaines localités sont en train d'être libérées. Vous êtes mieux placé que moi pour avoir cette information.
Donc, par les rebelles. Donc, donnons
les bénéfices des doutes et des chances à ces accords-là. Peut-être que avant 2028, ça pourrait intervenir.
Voilà, nous avons beaucoup parlé, hein, et or il faut aussi donner la parole aux auditeurs, hein, et là nous allons, professeur Alidor Tshibanda, vous gardez la parole, hein, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la province de l'Ituri, dans les territoires de Haru, c'est Maître Chrysostome Lebakwa.
Maître Chrysostome Lebakwa, depuis Haru, dans la province de l'Ituri. Montesquieu avait déjà averti en disant ceci. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut que, par la disposition des choses, les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Si le président de la République venait à outrepasser les limites du pouvoir que le peuple lui a confié, il appartient aux autres institutions de la République, notamment les parlements et les pouvoirs judiciaires, de jouer pleinement leur rôle de contrepoids institutionnel conformément au principe de séparation des pouvoirs. Son Excellence, le chef de l'État, semble ignorer que l'organisation des élections ne relève pas de sa compétence directe. L'article 73 de la Constitution de la République est pourtant sans équivoque. Il dispose ceci. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. La compétence de convocation du scrutin appartient exclusivement à la Commission électorale nationale indépendante et non au président de la République.
Professeur Aldo Tshibanda, je vais vous demander d'être concis parce qu'on est à la
Oui, je ne suis pas juriste pour me mettre à croire aux lettres. Hein, la lettre tue et l'esprit vivifie. Hein, il a évoqué Montesquieu qui est largement dépassé. Aujourd'hui, on parle de l'efficacité de la justice pour servir de contrepoids. Moi-même, j'en ai parlé en troisième graduat, c'était mon TFC, et j'ai découvert que... il est resté bon pour cette théorie-là est bon pour les auditoires, hein, mais la pratique aujourd'hui, tu sais qu'il contrôle le Parlement, il contrôle le gouvernement. Comment le Parlement va exercer le contrôle pour l'empêcher de faire ce qu'il pourra faire? Donc, c'est voilà. Dépassé. Et deuxième problème, c'est l'article 73 qui prévoit, mais entre le droit et le fait, qu'est-ce qui précède l'autre? Et lorsqu'il pourra trouver ce qui vient avant par rapport à l'autre, il va trouver des réponses. Nous sommes devant des situations très complexes où personne n'a de maîtrise. Les leviers de la maîtrise de toutes ces situations-là, faisons un effort pour que les élections, l'obligation électorale ne soit pas un gage de balkanisation effective du pays. Et nous traversons une période très délicate. Il faut qu'on soit plus sage pour permettre à ce que le retour de la paix nous donne de bonnes élections.
Merci. Professeur Taylor Lubanga, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Jules Maguené.
Je suis Jules Maguené, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que le président de la République avait affiché sa position depuis la prise de Bounagana. Il a trop joué la montre pour prolonger son mandat au-delà de 2028. Lui-même et son camp politique ne veulent pas la fin de cette guerre et devient un alibi pour masquer l'échec de ses deux quinquennats. Il s'est dit homme d'État, le président de la République, mais un véritable homme d'État respecte les textes et les lois de son pays. Le président se trompe en pensant que le peuple congolais lui accordera un troisième mandat. La constitution congolaise est claire, l'UDPS peut rester au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais avec l'alternance, pas avec Tshisekedi comme président. Lorsque le peuple délègue le pouvoir, il ne peut plus décider en dehors de ce que prévoit la Constitution. C'est la Constitution qui demeure notre guide. Nous allons barrer la route au troisième mandat de Félix Tshisekedi.
Professeur Taylor Lubanga, si vous êtes concis.
Oui, merci beaucoup. J'ai reçu la question de Jules Maguené. Et donne son avis
je considère républicain, sur le débat républicain, dans un contexte où la République fait face à des enjeux majeurs, où vous avez un gardien, les gardiens aujourd'hui du retournement de l'ordre sécuritaire national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous venons, vous savez, dans ce pays nous avons une mémoire parfois courte. On a connu Mobutu, on a connu Mzé Laurent Kabila, assassiné d'ailleurs. On a connu Joseph Kabila. Jamais un dirigeant a eu le courage, non seulement de démasquer les complots rwandais, ougandais et d'autres puissances connues, imaginables, existantes pour appuyer des guerres. On a eu au moins Félix Tshisekedi qui aujourd'hui a fait entendre la voix du pays au niveau international. Et le changement, ou mieux le retournement du narratif de la situation du pays a permis aujourd'hui que l'on sache le raison, les causes mobiles et même qu'on nomme l'agresseur. Et vous pensez-vous que ce travail est facile? Mais ce que l'on président n'a pas fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que
Est-ce que le chef ne va pas utiliser cette guerre pour glisser, prolonger son mandat.
Il est antinomique. Il est antinomique que le président de la République, qui est insulté par Kagame tous les jours, qui est lui aujourd'hui la cible de tous ceux qui ne veulent pas que le Congo aille de l'avant, soit celui-là qui voudrait que cette situation perdure, mais dans quel intérêt? Pour rester au pouvoir, pour le pouvoir? Non, c'est irrationnel. Et donc, ce qui est demandé arrivera. Peut-être que cette guerre prendra fin le plus tôt possible, que la situation ici actuellement sécuritaire ne soit pas considérée comme une conditionnalité absolue, mais c'est un engagement du président à vouloir mettre fin à cette situation qui a beaucoup duré. Mais maintenant, est-ce que le troisième mandat est possible? Qui vont barrer la route du troisième mandat du président? Qui pense faire mieux que lui? C'est ça le débat républicain. La vitalité démocratique, c'est cette contradiction-là. Et donc, si la majorité des Congolais, numériquement, à l'occasion d'un scrutin démocratiquement organisé, arrivait à opiner dans le sens de M. Gilles Maguenet pour dire que nous ne voulons pas d'un troisième mandat de Tshisekedi, eh bien, cette position démocratique l'emportera sur la position contraire. Mais si la position contraire pourrait inférer à l'idée que le président Tshisekedi a non seulement les solutions au problème du Congo, mais en même temps le courage de mettre le pays sur la voie de son développement et qu'il peut continuer, que les cas minoritaires acceptent aussi de s'allier, et c'est ça la démocratie.
Merci, on a compris, c'est ça la démocratie.
Jules Maté, pour terminer sur cette question importante, la démocratie, c'est cette expression populaire. Mais il ne faut jamais instrumentaliser ou faire apparaître les débats de force au lieu de la force de débat. Merci. De manière à ce que les rationalités dominent nos actions et nos raisonnements. C'est ça la République que moi je désire. Et merci, c'est cette raison pour laquelle les 13 parlementaires s'étaient opposés au BIFTEC. C'est ce débat pour lequel le dialogue global inclusif de Sensity avait eu lieu et arrivé aux conclusions. Mais c'est finalement ce débat pour lequel aujourd'hui nous plaidons pour le respect entier de la volonté du peuple et sa notre démocratie dans une marche électrique nationale et respectable.
Merci Émile Hassani, député national. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga dans le Kasaï central.
Je m'appelle Rivin Kadiata au Kasaï central. Je salue les propos du chef de l'État comme étant un garant de la nation en déclarant ouvertement les contraintes qui peuvent empêcher la tenue des élections, ce que les autres ne pensaient même pas. Certes, il a une mission et non un mandat. Les peuples peuvent barrer la route à un président qui n'a pas une vision de la reconstruction de la République. Mais celui-ci a des preuves palpables de sa bonne gestion de la République démocratique du Congo.
Oui, honorable Émile Hassani. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps.
Rufin Kabea, je crois que c'est un Congolais, il est libre de réfléchir comme il veut, mais seulement il doit savoir que sa réflexion doit être encadrée par les cadres juridiques. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici ou débattre. L'honorable Lubanga a dit que, écoutez, un troisième mandat, il parle de la réforme, réforme pour améliorer la gouvernabilité. Voilà. Voilà ce qu'il avait dit. Nous, au LGD, nous avions dit que, nous l'avions démontré, pour dire qu'il n'y a aucun rapport entre la constitution et le développement d'un pays. Il y a certains pays qui n'ont pas de constitution, mais qui sont développés. Qu'on ne puisse pas tromper le peuple. Comme pour dire, parce qu'il a dit la réforme pour améliorer la gouvernabilité. Non, là c'est du mensonge. Il n'y a aucun lien, aucun trait d'union entre la révision de la constitution et le développement.
Alors, votre
que
mot de la
veulent
fin?
Les Congolais? Les
votre,
Congolais.
Votre mot de la fin. Ça sera votre mot de la fin.
Je m'adresse au chef de l'État, c'est lui le père de la nation. Qui ne se laisse pas emporter par ceux qui se disent, entre guillemets, désespèrent. C'est lui qui va rendre compte, que ce soit devant le peuple congolais, que ce soit devant Dieu. Et qui ne se laisse donc... Il y a beaucoup de cadres à l'UDPS. Nous avons les Jules Mounier, les fils Moukoko, tout ça. Ils peuvent commencer déjà à préparer la relève. Au lieu qu'on soit distrait, tout ça, qu'on cherche quelqu'un qui pourra succéder le chef de l'État.
Comme l'ANC en Afrique du Sud.
Voilà, voilà.
Merci Anidor Chibanda, professeur. Vous pouvez aussi vous donner votre mot de la fin.
Moi, je crois que faisons ce qui est bien pour le peuple et consolidons notre démocratie. Ça pourra nous amener à l'idéal pour lequel les Lumumba sont morts, les Tshisekedi se sont battus, les Kabila sont morts, et le peuple, tant martyrisé, continue à attendre.
Merci, professeur Taylor Lubanga. Votre mot de la fin.
Mon mot de la fin, c'est d'honorer la civilité du débat tout à l'heure avec les intermédiaires, avec mes co-débatteurs, de rappeler aux Congolais qu'ils sont le centre de l'impulsion de l'action politique nationale. Les lois sont faites pour la gouvernance, elles sont faites par les Congolais, et elles peuvent être défaites, être améliorées aussi par les Congolais. Voilà pourquoi dans une réflexion récente, je disais, touche, virgule, ne touche pas le dernier mot qui est mon peuple. Il n'existe pas un peuple du dedans, un peuple du dehors. Le peuple est le même, et le peuple est constant, et le peuple détient le secret de sa volonté, détient, détient le mécanisme d'expression de ses désirs.
Merci.
Et c'est le référendum, ce sont les élections. Donc je pense que il existe un lien étroit entre le développement et la constitution, parce que la constitution est un cadre qui régente, mon Dieu, les cadres économiques du pays.
Merci. Merci.
Si un pays n'a pas de constitution, il a au moins des coutumes constitutionnelles.
Voilà. Merci. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Taylor Lubanga, honorable Émile Hassani, professeur Alidor Chibanda. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci. Merci à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Jean-Claude Ntiala et Alain Ngoy qui étaient à la technique, Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon suite au programme sur Radio Capitole.